Lizzie présente L'enfant du lac de Kate Morton, lu par Catherine Griffoni. À Henri, la plus petite de mes perles. Chapitre 1. Cornouailles, août 1933. À présent, la pluie tombait à verse. Le bas de sa robe était maculé de boue. Il faudrait la cacher en rentrant. Personne ne devait savoir qu'elle était sortie. La lune était masquée par les nuages. Bonne fortune qu'elle ne méritait pas. Elle poursuivit sa route dans les ténèbres épaisses aussi promptement qu'elle le pouvait. Elle était venue creuser le trou plus tôt dans la journée, mais ce n'était que maintenant, sous le couvert de la nuit, qu'elle pourrait finir le travail. La pluie hérissait la surface du ruisseau à truites et tambourinait sans relâche sur les berges. Dans les fougères, tout près, un mouvement vif se fit sentir. Elle ne s'en émut pas et continua sa course. Elle parcourait les bois depuis sa plus tendre enfance et connaissait les lieux comme sa poche. Quand la chose s'était produite, elle avait pensé tout avouer. Au début, c'était encore possible. Mais elle avait raté le coche. Maintenant, c'était trop tard. La machine s'était mise en marche. Les battues, la police, les appels à témoignages publiés dans la presse. Elle ne pouvait plus en parler à personne, ne pouvait plus revenir en arrière. On ne lui pardonnerait jamais. Il n'y avait plus qu'une solution. Enterrer la preuve. Elle atteignit enfin l'endroit qu'elle avait choisi plus tôt dans la journée. La boîte qu'elle transportait dans un sac était étonnamment lourde. Quel soulagement de pouvoir la poser! Elle se mit à quatre pattes pour dégager les fougères et les branchages qui dissimulaient le trou. L'odeur de terre mouillée était envahissante, mélange de champignons, de déjections de mulots et autres matières pourrissantes. Un jour, son père lui avait expliqué que la forêt était parcourue par les hommes depuis des générations et que nombreux étaient les corps inhumés au plus profond du lourd humus. Elle le savait, ses pensées réjouissaient son père. La stabilité de la nature le consolait. Ce passé plus que millénaire avait à ses yeux le pouvoir d'atténuer les chagrins et les problèmes du présent. Sans doute était-ce parfois le cas, mais, se dit-elle, pas en cet instant-là, pas pour ce problème-là. Elle déposa le sac dans le trou. La lune, alors, pendant une ou deux secondes, sembla percer les nuages. Les larmes n'étaient pas loin. Elle les ravala, tout en rabattant la terre à pleine main. Pleurer? Ici? Maintenant? Non. Elle n'allait pas s'accorder cette faiblesse. Elle aplatit la terre de ses paumes, l'égalisa soigneusement, avant de piétiner le sol, de toutes ses forces, jusqu'à en perdre le souffle. Voilà. C'était fait. Il lui vint à l'esprit qu'il fallait peut-être prononcer quelques mots avant de quitter ce coin de forêt loin de tout. Parler de la mort, de l'innocence, des terribles remords qui l'accompagneraient jusqu'à la fin de ses jours. Elle ne desserra pas les lèvres. Cette sotte idée la faisait rougir de honte. Elle rebroussa chemin, retraversa la forêt, prenant soin d'éviter le hangar à bateaux et les souvenirs qui s'y rattachaient. L'aube pointait lorsqu'elle vit paraître la maison. La pluie n'était plus qu'un crachin. Les vaguelettes clapotaient sur le rivage du lac tandis que le dernier rossignol faisait ses adieux. Les fauvettes à tête noire et les pouillots se réveillaient. Un cheval hennit dans le lointain. Elle ne pouvait le savoir alors, mais ses sons de l'aube ne la quitteraient jamais. Il la suivrait partout où elle irait, s'insinuant dans ses rêves et dans ses cauchemars, lui rappelant sans cesse ce dont elle s'était rendue coupable. Chapitre 2. Cornouailles, 23 juin 1933. C'était de la chambre au mur que l'on voyait le mieux le lac. Alice, cependant, décida de se contenter de la fenêtre de la salle de bain. Monsieur Llewellyn était encore au bord de l'eau avec son chevalet, mais il rentrait la plupart du temps dans le courant de la matinée pour se reposer. Elle ne voulait pas prendre le risque de le croiser. Le vieil homme n'aurait pas fait de mal à une mouche, mais il était excentrique et quelque peu accaparant, surtout ces derniers temps. Et qui sait s'il ne se méprendrait pas sur la présence de la jeune fille dans sa chambre. Alice fronça le nez. Autrefois, elle l'aimait tant, Monsieur Llewellyn. Affection des plus réciproques. Quand elle y repensait du haut de ses 16 ans, elle avait une drôle d'impression. Les histoires qu'il lui racontait, les petits croquis qu'elle conservait si précieusement, et cette aura de merveille qui le suivait partout comme une mélodie. Quoi qu'il en fût, la salle de bain était plus rapidement accessible que la chambre au mur. Et comme mère se rendrait compte dans quelques minutes que le rez-de-chaussée manquait singulièrement de fleurs, Alice n'avait pas de temps à perdre à filer dans les étages. Tandis qu'une ribambelle de femmes de chambre se répandait dans le grand vestibule, chiffon à la main, Alice se faufila en hâte jusqu'à la fenêtre de la salle de bain. Mais où était-il passé ? Alice sentit son estomac se contracter. En l'espace d'un instant, l'excitation s'était faite désespoir. Ses paumes tièdes plaquées sur le verre, elle balaya du regard le paysage qui s'offrait à sa vue. Roses aux pétales roses ou ivoire, aussi luisants que s'ils avaient été astiqués. Précieuses pêches accolées au mur du jardin clos. Immense miroir d'argent du lac, scintillant dans la lumière du matin finissant. Le domaine avait été taillé et pomponné à la perfection, jusqu'au moindre brin d'herbe. Et cependant, jardiniers et intérimaires s'y affairaient encore en tous sens. Des musiciens embauchés pour la journée installaient des chaises dorées sur l'estrade dressée pour l'occasion. Et tandis que les camionnettes des traiteurs se succédaient sur l'allée dans des nuages de poussière, la brise d'été soulevait les basques de la grande tente, pas encore finie de monter. La seule personne à ne pas se joindre à l'activité ambiante, c'était grand-mère de Chill. Petite silhouette voûtée, assise sur le banc de jardin en fer forgé, sous les fenêtres de la bibliothèque, elle était perdue dans le labyrinthe poussiéreux de sa mémoire et ne prenait pas garde aux ouvriers qui suspendaient les globes de verre des lanternes dans les arbres alentour. Alice, soudain, retint sa respiration. Il venait d'apparaître. Le sourire s'élargit sur le visage de la jeune fille avant qu'elle puisse le réprimer. Oh, joie délectable, scintillant de 1000 étoiles! Il se tenait sur la petite île au centre du lac, un énorme rondin en équilibre sur l'épaule. Elle leva la main pour le saluer, sans réfléchir. Allons donc, à quoi pensait-elle? Il ne regardait pas dans sa direction, et si tel avait été le cas, il se serait bien gardé de répondre à son salut. Ils savaient tous les deux qu'il leur fallait rester prudents. Les doigts d'Alice saisirent la fine mèche de cheveux qui se détachait toujours et pendait, quoi qu'elle fasse, près de son oreille. Elle la fit glisser entre son index et son majeur une fois, deux fois, 10 fois. Elle aimait à le regarder de cette manière en secret. Elle se sentait forte, alors, bien plus qu'en sa compagnie, lorsqu'elle lui apportait de la limonade au jardin ou se débrouillait pour aller le surprendre dans l'un ou l'autre des recoins éloignés du domaine. Il lui demandait des nouvelles de son roman, de sa famille, de sa vie. Elle lui racontait des histoires et il riait. Et elle devait lutter de toutes ses forces pour ne pas se noyer dans les profondeurs de ses yeux verts mouchetés d'or. Sous le regard d'Alice, il se pencha, rééquilibra le lourd rondin au creux de son bras et le déposa sur la pile déjà formée. Il était vigoureux, ce qui était une bonne chose, songeait Alice, sans trop savoir pourquoi. Cette puissance l'affectait en un lieu de son âme qu'elle n'avait pas encore exploré. Ses joues la brûlaient. Le sang lui était monté au visage. Alice et Devane n'étaient pas timides. Des garçons, elle en avait déjà fréquenté. Peu, il est vrai. À l'exception de leur grande fête d'été, ses parents étaient d'une réserve notoire, privilégiant leur couple à la fréquentation du monde extérieur. Alice, cependant, avait déjà pu, en de rares occasions, échanger des regards subreptices avec des garçons du village ou avec les fils des fermiers du domaine qui, casquette tirée sur le front, yeux baissés, suivaient les pérégrinations de leur père. Mais cela, non, cela, c'était autre chose, tout simplement. Elle savait bien de quoi avait l'air ce genre d'affirmation extatique, d'une folle déclaration à la Déborah, sa grande sœur. Alice n'y pouvait rien, c'était vraiment ça, vraiment autre chose.